Il a poussé la porte du studio, il est à mes côtés. Bonjour Anthony Bélanger, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Les Américains partent d'Afghanistan à la fin du mois. Qui pour les remplacer ?
Eh bien, pour répondre, il faut faire un peu d'histoire et ouvrir une carte. L'histoire, nous, pour comprendre que l'insurrection des talibans n'a en soi rien de neuf. Je ne parle même pas du fait que ce mouvement national-religieux a déjà exercé le pouvoir entre 1996 et 2002. Churchill, en 1998, alors qu'il était jeune officier journaliste de 23 ans, a suivi l'expédition des Britanniques aux frontières de l'Afghanistan, dont les ennemis étaient à l'époque un parti national-religieux appelé Talib ul Hilm, qui prêchait le djihad contre l'Empire britannique. Les Britanniques ont été saignés à blanc et sèchement battus. Ils ont dû quitter piteusement les montagnes de l'Hindou Kush. Un siècle plus tard, Russes et Américains ont fait la même expérience de ce fameux tombeau des empires, c'est le surnom de l'Afghanistan. En Afghanistan donc, tout est un éternel recommencement.
Bon bah si c'est un éternel recommencement, on connaît la suite.
Bien sûr qu'on la connaît. L'Afghanistan est depuis toujours ce qu'on appelle une marche d'empire, c'est-à-dire un territoire qui sert de tampon entre des puissances qui, sans cela, trouveraient trop dangereux d'avoir des frontières en commun. C'est d'ailleurs lorsqu'un empire a voulu prévaloir en Afghanistan sur les autres, parce qu'il s'estimait plus puissant et plus riche, que les ennuis ont commencé pour lui. Il n'y a guère qu'Alexandre le Grand qui est parvenu à s'y implanter durablement, et encore. C'est maintenant qu'il faut ouvrir une carte. Les États-Unis partis, il reste aux frontières l'Iran à l'ouest, l'Inde et le Pakistan au sud, la Chine à l'est et la Russie au nord, à part l'entremise de ses clients et alliés d'Asie centrale, Ouzbékistan et Tadjikistan. C'est si vrai qu'avant même d'avoir repris le pouvoir, s'ils le reprennent, les talibans ont été pris d'une frénésie de voyages diplomatiques. Ils ont été reçus à Moscou en janvier, à Téhéran et à Pékin en juillet. Au Pakistan, ils ont même une ambassade et deux consulats, c'est dire.
Donc, quelle est la conclusion de ces négociations, Anthony ?
Bien, première chose, tout ce petit monde a une crainte en commun que le conflit intérieur afghan déborde sur leur territoire. Ni l'Iran, ni le Pakistan ne veulent de centaines de milliers de réfugiés. Il y en a déjà 30 000 par semaine en ce moment même. Par ailleurs, la Chine ne veut pas d'infiltration islamiste sur sa frontière ouest, c'est-à-dire le Xinjiang, là où vivent les Ouïghours. Donc, l'urgence, c'est le contrôle du territoire afghan et l'anéantissement d'un État islamique qui tente de s'y implanter. Alors le calcul est vite fait, les seuls qui ont sur place les moyens militaires et la même haine de l'État islamique sont les talibans et leurs alliés d'Al-Qaïda. Ailleurs, chacun de ces pays tente d'obtenir une protection pour ses alliés. L'Iran veut que les pogroms contre les Hazaras chiites cessent. Le Pakistan est obsédé par le fait que l'Inde avance sur place ses pions. Quant à la Russie, elle protège les Ouzbeks et les Tadjiks afghans. Bref, tout le monde a intérêt à s'entendre avec les talibans. Ça tombe bien, c'est exactement ce status quo hanté dont a toujours joui l'Afghanistan. Équilibrer les puissances régionales, jouer les unes contre les autres, faire payer tout le monde et ne contenter personne tout à fait. L'Afghanistan, une marche d'empire, je vous disais.
Géopolitique signée Anthony Bélanger. À demain, Anthony.